Création et luminescence, c'est le thème ce matin retenu par Marc Menant avec Jacques Mandorla, journaliste écrivain, avec bien sûr vos réactions sur le 01 42 32 15 15.
Oui, Jackie, approchez-vous encore un peu, mon petit Jackie. Ah, ouais, ça reste sombre. Hein. Vous n'êtes pas assez mystique, il va falloir vous remettre à la prière. Incroyable. Faut pas négliger ces choses-là. Non, je plaisante, mais il est vrai que ce sont avant tout les gens de foi qui se trouvent gagnés par ces phénomènes. Jacques Mandorla, notre ami écrivain journaliste, invité ce matin, rédacteur en chef du magazine Facteur X, qui est un bimensuel. Et puis le Figaro Magazine, tout un dossier de presque 10 pages, l'explosion du paranormal, traité par Léopold Sanchez. Il a amené toute une équipe de journalistes pour essayer de voir quelles sont les manifestations les plus invraisemblables que l'on peut constater encore de nos jours, mais la lévitation, la luminescence, on est d'accord là-dessus, ça n'existe plus véritablement. Sauf peut-être, et on le verra tout à l'heure, Jacques, c'est du côté des Tibétains.
Tibétains et les Indiens aussi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de...
Des
yogis indiens, oui, parce que là, il y a des expériences relatées entre les deux guerres par, je dirais, les colons anglais, et puis on en parle encore aujourd'hui, donc je pense que ça serait bien que les auditeurs sachent ce qui se passe de l'autre côté de la planète.
Sachez tout de suite qu'on ne les frustrera pas, et que nous aurons en particulier l'éclairage d'Isabelle Robinet, qui est professeure à l'Université d'Aix-en-Provence, et qui s'est beaucoup intéressée au taoïsme et phénomènes secondaires provoqués ou engendrés par les exercices de méditation du taoïsme. Alors, tout de suite, on va essayer de traiter un cas très spectaculaire, parce que nombre de personnages politiques du début du de la fin du siècle dernier ont pu remarquer les prodiges dont il était capable, mais bon, certains ont dit qu'il y avait eu peut-être de la triche. Là, on est à cheval entre l'illusionnisme et puis la réalité avérée. Pour ce faire, Éric Péguigny, que nous avons déjà reçu, journaliste à psychologie, qui est auteur aussi du livre « Psy-enquête sur les phénomènes paranormaux » aux éditions du Presse du Châtelet. Éric, bonjour.
Oui, bonjour Marc.
Alors, il me paraît tout de suite donc déterminant de mettre en scène ce monsieur qui, quoi qu'il arrive, même s'il y en a qui, en esprit chagrin, cherche à le noircir, c'est quand même rendu coupable de phénomènes invraisemblables. C'est Daniel Douglas Home.
Oui, alors, c'est vraiment l'un des dossiers les plus étonnants que j'ai eu à traiter dans l'enquête que j'ai fait, donc qui a été publiée sous le nom de Psy, et qui est le plus dérangeant, parce que si vous voulez, il ne faut pas oublier que tout ce qui est d'ordre de la lévitation et donc de la macro-psychokinèse, donc du déplacement des objets par l'esprit, est quand même quelque chose d'extrêmement bouleversant. Je crois que c'est le phénomène le plus bouleversant à constater parmi tous les phénomènes psy. Mmh. Alors, Douglas Home était un Écossais. Bon, il est né en 1833. Il a été envoyé aux États-Unis suite à la mort de ses parents pour être élevé chez sa tante. Et puis alors, c'était un jeune garçon qui avait quelques facultés apparemment de prémonition, qui n'étaient pas très bien vues. D'ailleurs par sa famille, ni par son entourage, mais enfin, le plus important n'est pas là, c'est qu'à l'âge de 17 ans...
Enfin, c'est intéressant quand même ce que vous dites, Éric, parce qu'on s'aperçoit souvent que les gens qui vivent des expériences paranormales ont connu des brisures dans leur jeunesse.
Oui.
Donc le fait d'être rejeté montre bien que c'était un personnage qui était condamné à une forme d'introspection.
Oui, bon, c'est pas, on va pas faire une généralité, c'est vrai que c'est important, enfin c'est intéressant parce que il y a eu ce déménagement, la mort de ses parents, être élevé par sa tante, ça n'a pas été forcément drôle, et dans un milieu extrêmement puritain en plus, hein, au milieu du siècle dernier, c'était assez terrible aux États-Unis, dans certains milieux, et à l'âge de 17 ans, il a commencé à avoir des phénomènes de psychokinèse, c'est-à-dire de déplacement d'objets autour de lui. Évidemment, sa tante a pris ça pour une manifestation du diable, vous pensez donc,
ouais.
Et l'a chassé carrément de chez lui. Bon, et comme il avait cette espèce de talent qui consiste donc à faire des prodiges, genre déplacer des tables à distance, je dis bien là, toujours à distance, hein, à faire jouer des instruments tout seul, etc., il en a fait profession.
C'est-à-dire qu'au départ, voilà, il va profiter d'un don qui s'est révélé à lui.
Voilà.
Il n'a pas été enfant de l'école du cirque.
Non, pas du tout.
Hein, ouais, non, mais c'est important de dire.
Et alors, chemin faisant, j'essaie de résumer parce que, si vous voulez, c'est l'un des dossiers les plus énormes sur ce qu'on peut appeler un médium, hein, on va dire un médium, qui jamais existé parce qu'il a été étudié par, je crois, au moins la moitié de toute la congrégation scientifique du siècle dernier, plus les journalistes. Alors, donc, comme il avait ce don-là, il a commencé à se produire dans des séances privées, si vous voulez, pas en faire du cirque. Et tout le monde venait le voir, il recevait les gens dans son salon, il avait été accueilli par des gens. Et les premiers qui l'ont examiné pour voir quel genre de magie il faisait, quel genre de magicien c'était un critique journaliste de l'époque, et David Wells, qui était professeur à Harvard, aux États-Unis.
Et là, un premier temps, ils seront surtout aptes à déplacer des objets à distance, mais il n'a pas encore l'évité.
Voilà.
À quel moment ça va se produire?
Voilà, alors, donc, première expérience, pour résumer, il déplace une grosse table, le professeur de Harvard s'assied sur la table, qui se déplace quand même, avec lui dessus. Enfin, donc, le problème, c'est que ils ont fait un rapport en disant, bon, il n'y a eu aucune manipulation, aucune illusion d'optique. Et à partir du moment où ils ont publié dans la presse ce rapport, vous avez tous les scientifiques un peu ouverts, parce qu'évidemment des
il y a quelques fermés,
voilà, il y avait même à l'époque quelques fermés
déjà.
Et en plus, je veux dire, même les scientifiques ouverts venaient pour démontrer la supercherie. Alors là, je dois bien préciser que il était capable de au fur et à mesure qu'il développait son talent, il a été capable de phénomènes absolument incroyables.
C'est-à-dire qu'il
il faisait léviter des tables, des chaises, c'est-à-dire non seulement les déplacer, mais les soulever, et les tables et chaises restaient en l'air pendant quelques instants quand même, des objets très encombrants. Il faisait jouer à distance des instruments de musique, genre accordéon. Il était capable de matérialiser des objets, il était capable de prendre des charbons ardents dans sa main. Vous direz, ça c'est pas un grand prodige, d'autres savent le faire.
Oui, c'est pour ça, on va arriver tout de suite, Eric, je vous bouscule légèrement.
Oui.
Simplement, c'est sur ce cas invraisemblable de la lévitation.
Et alors, donc, et à un moment donné, alors je ne sais plus exactement à partir de, je crois que c'est quelques mois après, il a réussi à léviter, c'est-à-dire à s'élever du sol pour tenir en l'air pendant quelques minutes.
Alors, il est intéressant.
Pas 30 secondes, c'est quelques minutes. Et ce qui est intéressant là, permettez-moi Marc,
oui, oui.
C'est qu'il faisait tout ça en pleine lumière. C'est-à-dire que les gens étaient, enfin les observateurs, qui étaient, je rappelle, des scientifiques, comme William Crookes. William Crookes, c'est un chimiste qui a inventé le thallium. Bon, il l'a beaucoup observé, les observateurs étaient autour de lui, donc il n'était pas sur une scène, étaient autour de lui en pleine lumière, et non pas dans la pénombre comme le faisait la majorité des médiums de l'époque.
Alors ce qui est vrai aussi, c'est qu'il va pouvoir déclencher le phénomène à volonté. Ce qui n'est pas le cas des mystiques. Tout à l'heure, Jacques nous parlait de toutes les situations de lévitation d'luminescence. Ça semble totalement être comme des phénomènes foudroyants qui les touchent, qui les fauchent, qui les emportent, mais en aucun cas déclenchés à volonté.
Alors, à volonté, entre guillemets, parce que si vous voulez, quand on voit tout ce qui est exposé dans les dossiers de l'époque, on a du mal à croire aujourd'hui que ce soit possible. Bon, il y a un élément quand même il y a deux éléments qui me font penser que l'histoire est quand même tout à fait authentique, c'est que il le faisait certes à volonté, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois ça ne marchait pas. Vous savez, c'est un peu comme un musicien qui fait des tournées de concert. Ben, il y a un concert où il est complètement inspiré, où toute la salle est en transe, et puis un autre concert où il n'est pas très en forme, et puis il n'est pas inspiré. Bon, ben, comme pour la majorité d'ailleurs des vrais grands médiums, ça se déclenche à volonté, mais pas tout le temps, si vous voulez.
Alors, le cas le plus invraisemblable, Eric Pigani, qui est bien traité dans votre ouvrage, non pas que les autres ne le soient pas, mais disons qu'il choque et que l'on enracine à jamais dans sa mémoire, c'est le jour, donc dans votre livre Psy, écrit sur les phénomènes paranormaux, le jour où il va passer par la fenêtre carrément.
Oui, alors là il était capable de non seulement de se léviter, je dis de rester en l'air plusieurs minutes, pas 30 secondes, imaginez plusieurs minutes. Et ensuite, quelqu'un ouvre la fenêtre et il passe par la fenêtre. Et ça paraît complètement aujourd'hui invraisemblable. Mais
surtout quand on n'entend pas Ploc après.
Voilà.
Qui passe par la fenêtre, d'accord, oui. Mais qui n'est pas le bourre ensuite, voilà, ça c'est déjà plus étonnant.
Durée de chaussée quand même.
Alors
Alors, qu'est-ce que je voulais dire,
non, mais c'est-à-dire qu'il passe par la fenêtre et il va rejaillir par l'autre fenêtre, c'est
oui,
ça?
Oui.
C'est-à-dire qu'il fait un arc de cercle.
Il faut rappeler qu'on était à 24 mètres de hauteur à peu près, donc troisième étage de l'immeuble.
Ah oui, c'était au troisième étage.
Ça, c'est important. Et effectivement, il n'y avait qu'une corniche de 30 cm environ qui reliait les deux fenêtres. Donc, alors que les gens l'ont vu effectivement dans le vide et non pas contre le mur.
Alors donc, quand il sort, on ouvre la fenêtre. Mais est-ce que l'autre fenêtre a été ouverte? Alors là, on va dire, il y a un appel d'air ou il y a quelqu'un qui se dit, tiens, il est bon peut-être de prévoir qu'il repasse de l'autre côté? Ah non, il faut tout détailler. Hein.
Oui. Non, mais le problème est même plus au niveau de l'appel d'air, si vous voulez. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont fait, les gens de l'époque ont fait quand même des observations, non seulement de visu, ils ont placé des cercles autour de lui, fait passer, vous savez, comme pour les magiciens, des grands cercles pour voir s'il n'y avait pas des fils invisibles qui le tenaient. Ils ont procédé à toutes sortes d'expériences. Qui ont démontré que apparemment et de toute évidence pour eux, il n'y avait aucun trucage.
Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il serait difficile d'envisager la lévitation quand on l'a fait du côté des illusionnistes. C'est un déplacement vertical, mais en aucun cas comme ça une projection avec mouvement au-delà du troisième étage.
Mais si on a des cas historiques, Copertino, le père Copertino, était comme ça un léviteur très célèbre qui s'enfermait dans sa cellule, qui traversait en volant l'église pour venir prendre sa communion et repartait comme ça, je veux dire, au vu de tout le monde. Donc il y a quand même des cas de lévitation avec déplacement quasi intentionnel, si vous voulez.
Eh bien, Eric Pigani, merci beaucoup. Donc, je rappelle, personnage que vous avez mis en valeur, Daniel Douglas Home, qui lui n'était pas un mystique et qui pourtant donc a époustouflé toute une catégorie de savants, d'hommes politiques, et d'ailleurs, il a réussi quelques-uns de ses prodiges devant Napoléon III.
Une petite précision, Marc, merci. Ce que disait Eric là à l'instant, il fallait noter une chose, c'est qu'il est sorti par la première fenêtre, la tête en avant, et il est rentré dans l'autre, les pieds devant. Donc, avec une sorte de rotation, finalement.
Ce qui complique encore plus le cas.
D'après les témoins, absolument. Mmh. Une autre fois, donc, il avait marqué en haut d'un mur, dans une lévitation verticale, celle-là, par contre, avec une craie, il avait marqué un signe qui est resté. Donc, on a pu avoir une preuve physique que, d'une manifestation, il était à 3-4 mètres en hauteur, il a laissé une trace en haut, près du plafond. J'ai noté une phrase qu'il avait dite qui était intéressante. Comment il percevait, lui, ça de l'intérieur? Il disait, je suis soulevé perpendiculairement par une force mystérieuse. Mes bras deviennent rigides et sont tirés au-dessus de ma tête. Donc, il ne pouvait pas lutter contre ce genre de catalepsie, finalement, de rigidité du corps, qui l'amenait en perpendiculaire vers le haut. Et puis, j'ai trouvé dans des écrits que le russe Tolstoï, le fameux écrivain que tout le monde connaît, avait assisté en direct à une séance de home, et il est même allé plus loin, parce qu'il dit, j'ai pris ses pieds pendant qu'il flottait par-dessus nos têtes. Donc, il s'est accroché à ses pieds pour essayer de le faire redescendre. Et ça, c'est un témoignage qui est intéressant, parce que...
Et a-t-il décollé?
Il a continué sa lévitation, il l'a lâché.
Oui,
mais Tolstoï, il restait au sol, lui.
Bon, alors, ce qui est intéressant, puisque là, vous parlez d'accompagnement du phénomène, soit par un individu, en l'occurrence Tolstoï, mais on pourrait parler aussi des objets. Et là, dans l'enquête que vous avez menée, et vous avez la gentillesse de me donner quand même quelques éléments, il y a le cas de Marie Dubourg, mère Marie de Jésus. Alors, cette femme, elle vivait à la souterraine, c'est dans la Meuse, c'est bien ça?
C'est exact, absolument, dans l'est de la France. Donc, elle était comme beaucoup de mystiques religieux, elle a lévité. Et elle entraînait, alors ce qui était très surprenant, donc elle entraînait le prie-Dieu sur lequel elle était en train de prier. Plusieurs fois, elle s'est accrochée parce qu'elle voulait lutter, résister contre cette force. Et donc, elle a entraîné les prie-Dieu, c'est quand même très très lourd. Et elle les emmenait sur 1 ou 2 mètres de hauteur. Et puis, par moments, elle les lâchait, donc et le bois se fracassait en arrivant au sol.
Voilà, il paraît que, en particulier dans une séance, j'ai noté, le 7 avril 1856, le prie-Dieu retombe, se fracasse. Et aujourd'hui encore, ce prie-Dieu, on peut le voir à la souterraine.
Ah, il est exhibé, effectivement, comme une sorte de relique, on va dire, parce que c'est le témoignage d'il y a un siècle et d'une lévitation qui s'est passée sur ce lieu même, oui.
Alors, puisque nous sommes avec les femmes, que de noms apparaissent. Alors, je ne sais pas si le phénomène les concerne plus, elles, que les hommes. Mais dans les enquêtes qui ont été éditées sur le phénomène, elles semblent quand même largement majoritaires.
En lévitation?
Oui.
Ah non, alors...
Ah bon?
Non, c'est les hommes, plutôt.
Ah bon, d'accord.
Très nettement, oui. En luminescence, plutôt les femmes. Et en lévitation, là, on rencontre essentiellement beaucoup plus d'hommes dans les cas.
Et les hommes qui se prennent pour des lumières, comme quoi, hein.
Ça nous remet à notre place, ouais, là, finalement. Ouais, ouais. Quand on fait les statistiques, regardez, donc une centaine de cas sur 14 à 15 000 saints recensés, donc une centaine de cas de lévitation différents, ça fait un petit pourcent de gens qui lévitaient au niveau des saints. Et essentiellement deux tiers en gros d'hommes et un tiers de femmes.
Alors, est-ce que l'on pourrait traiter le cas de Thérèse d'Avila?
Un cas très très intéressant, effectivement. On est en 1560 environ, donc et Sainte Thérèse d'Avila lévitait en permanence. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme Copertino dont on a parlé tout à l'heure. Dès qu'elle était en ravissement, elle parlait de ravissement d'ailleurs, c'était son propre terme. À ce moment-là, elle disait que ça survenait comme un choc, je la cite là, un choc rapide et aigu, et elle se ressentait comme un aigle puissant qui s'élève et qui l'emporte au loin sur ses ailes. Voilà comment elle décrivait cette espèce d'élévation dans les airs, donc assez violente finalement. Elle se sentait tirée par une force invisible. Et elle disait qu'elle voulait souvent résister, et que surtout quand elle était en public, en train de prier dans une église, et qu'elle ne voulait pas se prêter en spectacle aux autres. Donc à ce moment-là, eh bien, elle disait que c'était quasiment impossible à chaque fois de résister à cette force puissante qui la soulevait sous les pieds. Elle sentait pas elle n'était pas tirée par les cheveux ou par le haut de la tête, mais elle disait comme si on la poussait sous les pieds pour la faire monter. Voilà comment elle ressentait. Donc ça, c'est un témoignage intéressant.
Alors là aussi, ça accrédite quand même le phénomène d'une certaine façon, parce que ces gens n'ont pas envie de le vivre. Ils veulent le cacher et ça se produit en public sans possibilité d'aménagement. Bon, en sachant aussi qu'à l'époque, apparemment, l'illusionnisme n'existait pas comme on peut le connaître aujourd'hui, pour monter au siècle dernier. Hein.
Oui,
c'est Houdin qui a véritablement développé l'illusionnisme et que, par conséquent, on n'avait pas les astuces qui auraient pu engendrer ce type d'étrangeté maquillée.
Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que là, c'est clair qu'il n'y avait pas de manipulation. On est dans des forces étranges, mystiques, et comme vous le disiez fort justement tout à l'heure, il n'y a pas de préparation. C'est jamais prémédité, c'est jamais une volonté de dire « je vais me donner en spectacle et je vais l'éviter maintenant ». Les religieux, ça leur arrivait à leur insu. Par contre, les conditions favorables, on a pu les situer, donc c'était souvent effectivement quand ils étaient en pleine très longue prière, et souvent, j'ai regardé les statistiques, c'était dans la majorité des cas après la communion. Après donc le fait d'avoir ingéré l'hostie.
Et l'élévation symbolique.
L'élévation, voilà. Donc, psychologiquement, probablement, il y avait une préparation très forte de concentration et d'extase par rapport à la communion, et l'état de lévitation surgissait après.
Alors, et c'est là, à chaque fois qu'il y a ces manifestations d'aura, en quelque sorte.
La luminescence,
oui.
Oui, exactement. Oui, c'est la luminescence, pour moi, c'est effectivement l'aura. Vous avez raison, c'est aujourd'hui, on l'appelle l'aura, qu'on mesure, je crois que vous avez fait des émissions là-dessus avec l'effet Kirlian. Donc, cette luminescence, ce rayonnement, cette bioluminescence, comme certains scientifiques l'appellent, intervient donc... c'est-à-dire quand les gens sont luminescents, donc ils lévitent, hein, comme on l'a dit, et pas inversement. Tous ceux qui lévitent n'ont pas de rayonnement lumineux. Mais ce rayonnement lumineux, donc, il est assez troublant, parce qu'aujourd'hui, à part l'électromagnétisme, on n'a pas d'explication précise.
Bah, d'autant plus que le phénomène est d'une intensité invraisemblable chez certains. Il y a Jacquette du Bachelier. Alors, cette femme se retrouve, elle, souvent dans cette situation, et un jour, alors qu'elle est religieuse, si ma mémoire est bonne, elle est moine, alors qu'elle est enfermée à l'intérieur de l'église, voit une lumière, on est en pleine nuit, il se précipite, pour se demander, il n'y a pas d'électricité à l'époque, hein, c'est la bougie, donc ça ne correspond à aucune possibilité physique de manifestation donc électromagnétique, et là.
Et là, bah, et donc, il voit un rayonnement très fort dans sa cellule, si j'ose dire, à travers les barreaux, à travers les fenêtres. Et donc...
elle est bien au-dessus du sol.
Elle lévite, voilà, donc...
Et à genoux.
Et elle plie les genoux, c'est ça, c'est-à-dire que comme si elle était sur le sol, mais à ce moment-là, elle est à un mètre du sol, et elle est à genoux en train de prier. Donc, c'est-à-dire que la matérialité du sol n'existe plus, et elle s'en rend pas compte, puisque quand elle redescendra après, et qu'on lui dit, on lui décrit ce qui s'est passé, elle n'en aura aucun souvenir.
Alors, c'est ça encore qui est inimaginable, parce que lorsqu'elle retombe, il faut bien quand même se reposer. Elle est à genoux. On sait la fragilité de cette articulation. Le moindre coup aussitôt nous blesse profondément. Et il semble, non, qu'elle se pose comme une plume.
D'ailleurs, c'est le cas de à peu près tous les lévitants, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de blessure, jamais d'accident, comme si, donc, ils maîtrisaient, je dirais, des lois universelles qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.
Eh bien, ces lois, néanmoins, on essaiera de voir si, à défaut de pouvoir les établir, on pourrait, en regardant des manifestations que nous provoquerions de façon délibérée, or on évoquera quelques cas troublants dans quelques instants, donc nous allons continuer à traiter ce dossier avec aussi un détour par le taoïsme, mais une petite pause.